Et voici la revue de presse internationale avec vous, François Chagnot, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et ce matin, François, les médias sud-africains mettent la une sur, ou plutôt mettent à la une, un nouveau scandale de corruption.
Et cette fois-ci, il vise l'ex-présidente du Parlement, Nosiviwe Mapisa-Nakula. Ce poids lourd de l'ANC, le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, a démissionné, été arrêté puis mis en examen hier. Madame Mapisa-Nakula doit répondre de 12 chefs d'accusation de corruption et d'un chef d'accusation de blanchiment d'argent. L'ex-présidente du Parlement est restée de marbre lors de la lecture de son acte d'inculpation par le procureur lors de cette demande de libération sous caution hier. Cette première comparution était retransmise par la télévision publique SABC. Mais c'est dans le média en ligne News 24 qu'on retrouve le détail des déboires de l'ancienne ministre de la Défense. Alors qu'elle occupait ce poste entre 2014 et 2021, Nosiviwe Mapisa-Nakula aurait touché des pots de vin d'une entreprise de fret maritime et aérien en échange de juteux contrat avec l'armée sud-africaine. Elle aurait pour cela réclamé l'équivalent de plus de 220 000 euros et en aurait reçu un peu moins de la moitié. Lors d'une perquisition chez elle la semaine dernière, les enquêteurs ont trouvé de grosses sommes en liquide, des sacs à main de luxe, une peau d'ours et même une perruque à 15 000 euros. L'accusé avait alors tenté d'échapper à cette inculpation en arguant la faiblesse du dossier monté par le procureur. Une mauvaise idée selon lui. La jurisprudence est claire. Lorsque vous demandez une mise en liberté sous caution, il n'est pas souhaitable de s'attaquer à la solidité du dossier de l'État, en particulier lorsque vous n'avez pas eu connaissance des éléments de preuve. Sur quelle base pouvez-vous dire, en droit et en fait, que les arguments de l'État sont faibles alors que vous ne disposez pas des preuves ? Une stratégie d'autant plus risquée que le procureur a annoncé qu'un autre suspect serait prochainement mis en examen. Ce nouveau scandale est de très mauvais augure pour l'ANC, le parti au pouvoir. Il reste moins de 2 mois avant les élections générales et pour la première fois de son histoire, le parti fondé par Nelson Mandela pourrait perdre la majorité au Parlement. Alors pour tenter d'éloigner la désormais radioactive Mapisa-Nakula, il s'en est immédiatement désolidarisé. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de la défendre dans une année électorale, avoue un éminent membre du parti qui a souhaité rester anonyme. La popularité de l'ANC est en chute libre à cause de ces affaires de corruption à répétition, car cette affaire n'est que la dernière d'une longue liste. L'ancien président Jacob Zuma avait dû démissionner en 2018 après la publication d'un rapport accablant. Le document, issu d'une commission spéciale, signalait le détournement de 30 milliards d'euros d'argent public au cours de ses mandats. L'affaire Mapisa-Nakula pourrait donc constituer le coup de grâce électoral pour l'ANC, réponse après les élections générales du 29 mai donc.
Et puis on va à Taïwan, François, où la presse internationale analyse la résilience de l'île face au tremblement de terre.
Oui, mercredi, l'île a connu son plus puissant séisme depuis 25 ans, 7,4 sur l'échelle de Richter. Vous entendez derrière moi les secousses qui ont interrompu un direct de la chaîne de télévision 7TV. Cette catastrophe a fait 10 morts et un millier de blessés selon le dernier bilan des autorités. Mais comme le raconte le correspondant du New York Times sur place, si les bâtiments ont vacillé, ils sont pour la plupart restés debout. Et tout cela, c'est grâce à des normes de construction antisismique exceptionnellement strictes. 10 000 écoles ont été rénovées et mises en conformité au cours des 20 dernières années. Et à chaque séisme dans le monde, les experts taïwanais réalisent des études et implémentent de nouvelles règles dans leur propre code de construction. Alors c'est essentiel pour protéger la population bien sûr, mais aussi ces usines, les usines de microprocesseurs de Taïwan, indique le média Nikkei Asia. C'est l'industrie stratégique numéro 1 de Taïwan. Ces usines, Taïwan qui détient un quart de la capacité de production de ces composants électroniques désormais omniprésents. Ces usines et leurs machines ultra perfectionnées doivent fonctionner 24 heures sur 24 car la moindre rupture de production peut coûter très cher. Les entreprises ont donc investi massivement pour protéger leurs installations. Et malgré toutes ces précautions, le leader mondial du secteur, TSMC, annonce dans Asia Financial des pertes estimées à 60 millions de dollars, alors que ces usines ont retrouvé leur capacité en moins de 24 heures après les séismes.
Et en Allemagne, le grand quotidien de Bavière dresse le portrait d'une sage-femme allemande sans domicile fixe.
C'est dans le Süddeutsche Zeitung que s'affichent le sourire et le désarroi de Caroline, 27 ans. Depuis qu'elle a entamé ses études de sage-femme à Munich en 2021, elle n'a jamais pu vivre sous son propre toit. Impossible, avec ses 980 euros mensuels, de trouver un logement, car le prix moyen d'une chambre dans une colocation de la capitale bavaroise s'élève en moyenne à 720 euros. Alors, dans ce portrait long format, le quotidien raconte comment ce marché immobilier impitoyable oblige Caroline à vivre au jour le jour. Une semaine sur le canapé d'un ami, une autre dans une sous-location insalubre, une autre dans le coffre d'une voiture. Le tout en enchaînant 40 heures de travail à l'hôpital chaque semaine, les cours à l'université et les petits boulots à temps partiel. Comme 49 300 Allemands, Caroline se trouve dans une zone grise, celle des SDF cachés, rappelle le Süddeutsche Zeitung en citant un rapport national sur le sans-abri. Caché car ces personnes ne peuvent pas bénéficier des aides dont elles auraient pourtant besoin. Pour cette classe moyenne en déclin dont est issue Caroline, le sentiment de déclassement serait trop humiliant. Le quotidien de centre-gauche préconise donc, pour conclure, la relance de la construction de logements à but non lucratif qui a été politiquement abolie en 1990. Il manque en Allemagne près de 2 millions d'appartements pour les personnes aux revenus inférieurs à la moyenne.
Merci François Chagnot pour cette revue de presse internationale. On reste à l'étranger. Dans quelques instants, nous allons évoquer le sort des Pays-Bas dans le cadre de cette série qui, comme vous le savez, est consacrée sur France Culture à être européen. Zoom donc sur la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie dans quelques secondes.